Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes quelques jours de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, elle a plusieurs significations et aussi plusieurs noms. Et on l'appelle la fête de Shavuot, Chag HaShavuot. Shavuot, ça veut dire la fête des semaines, parce que la fête, comme on a déjà mentionné, la fête de Shavuot est liée avec les semaines qui passaient entre Pessah et Shavuot. Ça veut dire que ça doit être sept semaines après, et le lendemain, c'est la fête de Shavuot, le 50e jour, Pentecôte, autrement dit, chez d'autres. Et c'est très significatif, peut-être on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et il y a aussi le nom de Bikurim. Bikurim, ça veut dire que dans une autre période, on trouve les fêtes juives plutôt avec leur symbolique ou bien leur signification agricole. Les trois fêtes, les grandes fêtes qu'on connaît, alors c'est la fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Et dans la Torah, ensuite, on l'appelle, on les lit avec les périodes agricoles. Donc la fête de Pessah est liée plutôt avec cette période où on a déjà de l'orge. La fête de Shavuot, c'est la période où on amène déjà les fruits, surtout les fruits d'Israël, les sept fruits d'Israël, que la terre d'Israël était glorifiée avec ses fruits. Donc on donne le premier de ses fruits et on l'amène dans le temple comme remerciement et reconnaissance à Dieu. Et la fête, donc ça s'appelle Bikurim. Bikurim, ça veut dire promise, les promises. Donc le premier fruit on amène. Et la troisième fête, donc la fête de Sukkot, s'appelle Chag HaSif. C'est la période où on fait rentrer, après l'été, qu'on a fait sécher certains de nos fruits, parce qu'on les mange surtout secs. Et donc, après cette période, on les fait rentrer à la maison, parce que bientôt, ça va être la période de la pluie. Donc ça, c'est le fait que plus tard, ils ont un lien avec les notions agricoles. Quel rapport entre la fête dans leur origine et dans cette période pour l'eau tardive, que là, ça s'appelle selon les miracles ou bien les événements qui se sont passés. Et plus tard, on les appelle selon les périodes agricoles. Alors, de là aussi, on va parler de ça aujourd'hui, mais il y a tout est lié dans le judaïsme. Et donc, il y a un rapport entre les trois fêtes avec les trois noms, les trois périodes dans l'année, donc les périodes agricoles, et on va laisser ça pour une autre fois. Ensuite, il y a ces noms qu'on appelle Chag Matan Torah, ce qu'on mentionne dans la prière, la fête des dons de la Torah. Et c'est surtout sur ça qu'on va se baser, c'est surtout ça qu'aujourd'hui on donne beaucoup d'importance à cette idée. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, on n'est pas vraiment, et ce n'est pas par hasard, on n'est pas vraiment lié avec la nature. Ça veut dire qu'on vit de la nature, bien sûr. Et pourtant, il y a des gens, la majorité des métiers, sont pas liés avec la nature, avec l'agriculture. Il y a d'autres personnes qui font pour nous ce travail, les gens qui sont dans les champs, mais la majorité des gens, ils vivent pas avec ça directement, même si bien sûr qu'on vit grâce aux champs, on vit grâce aux gens qui travaillent dans les champs, et pourtant, les gens de la ville, ils les voient des lois. Donc, alors, quelque part, aujourd'hui, on n'est pas les gens du champ, on est plutôt les gens de la ville, et on a d'autres symboles. Même si que ces symboles restent toujours, et donc, comme on a dit, on ne va pas trop rentrer dans cette idée aujourd'hui, mais par contre, le fait de donner de la Torah, c'est ça qu'on parle surtout, C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses autour de cette notion. Donc, alors, dans les temples, dans les périodes des temples, parmi l'acte important de ce qu'on a fait dans les temples pour la fête de Shavuot, c'est que les gens, ils ont amené de leurs champs des fruits, ou bien l'orge, blé, mais aussi des fruits, et les fruits, les meilleurs fruits d'Israël, donc ce que c'était les sept fruits d'Israël, ils ont apporté à Jérusalem et dans le temple. Et donc, alors, on a senti cette notion de promesse. Aujourd'hui, ça reste plutôt symbolique. Mais on parle plutôt de cette notion de don de la Torah. Alors, dans le Chassidut, on développe beaucoup cette notion de don de la Torah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais donc, au niveau historique, c'est vrai que la première des choses, c'est le don de la Torah. Ça veut dire que dans la Torah, lorsqu'on raconte l'histoire, alors tout d'abord, il y avait la sortie de l'Égypte. Et il savait qu'après la sortie de l'Égypte, la deuxième étape, ça va être le don de la Torah. Quand même, il y avait une période de 50 ou 51 jours entre les deux. Puisque les Bnei Israël, ils ont sorti de l'Égypte, c'était le jeudi. Et ensuite, cette semaine après, le samedi, ils ont reçu la Torah. Donc, ce n'était pas vraiment 50 jours, c'était 51 jours. Et là aussi, chaque chose avec ses explications. Aujourd'hui, on a l'habitude de garder le rythme de 50 jours. Et c'est plutôt significatif, cette idée de 50 jours. Mais c'est beaucoup de sujets qu'on ne peut pas du tout parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on de ce qu'on fait dans les synagogues, dans la tradition, c'est plutôt lié avec la notion des dons de la Torah. C'est pour ça que le soir de Shavuot, on a l'habitude de veiller, de lire toute la Torah. Alors, toute la Torah, on ne peut pas lire dans la nuit. Donc, on lit quelque part le début et la fin de chaque chose, de chaque Mishnah, en fait, de chaque, traité talmudique, de Mishnah. On lit le début et la fin, de chaque paracha, on lit le début et la fin, on a d'autres choses dans la Bible, parce que c'est la fête de la Torah. Et le lendemain, donc cette année ça va être 1er juin, et le lendemain, lundi 2 juin, on va écouter les 10 commandements, et c'est très important. Parce qu'on sait que ce qui s'est passé, c'est ce qui se repasse, et quelque part, ce que Dieu il nous a fait, même si aujourd'hui on ne voit pas, aujourd'hui ça recommence. Seulement qu'on n'a pas les yeux pour voir, mais ce qui s'est passé exactement comme on dit que la sortie de l'Égypte, ce n'est pas une histoire de passé, c'est une histoire qui se répète tout le temps d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, les dons de la Torah, c'est des choses qui se répètent d'une manière ou d'une autre. Là aussi, ça a besoin d'une explication, mais on va aller plus loin. L'idée des dons de la Torah, c'est une idée, c'est une fête, comme on a dit tout à l'heure, et comme on a dit que c'est une fête qui est liée directement avec la sortie de l'Égypte. Pas parce que c'est techniquement après ça, il y avait ça, parce qu'on considère que la sortie de l'Égypte, c'était une fête, la fête de la libération, est liée carrément avec le don de la Torah. Parce que si on n'a pas la Torah, on n'a pas de liberté. Ça veut dire quoi? Alors, on peut donner tout simplement un exemple. Aujourd'hui, on essaie de toucher tous ces sujets d'une façon assez superficielle et rapide pour essayer de toucher pas mal de sujets, puisque la fête de Shavuot, c'est une fois, un jour, et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on imagine quelqu'un qui sort de ses difficultés, de ses problèmes, mais si on n'a pas de solution pour lui, alors, il n'a pas vraiment sorti de ses problèmes. Si quelqu'un, par exemple, il était dans les drogues, que Dieu préserve, et on ne peut pas le faire sortir des drogues si on ne lui propose pas une solution qui va lui calmer, qui va quelque part remplacer le manque de drogues ou bien dans d'autres domaines. Mais d'une façon plus générale, l'esclavage et la liberté, c'est pas sortir en liberté, selon la vision juive, on ne peut pas être libre si on n'a pas un système, si on n'a pas un cadre. Et on peut dire comme ça qu'à l'époque, les gens ils ont travaillé très dur. Mais c'est vrai qu'il y avait des catastrophes dans la vie, il y avait des difficultés dans la vie. Mais il y avait beaucoup de détresse, il y avait beaucoup de cas où les gens ils ont été en dépression qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut imaginer des gens qu'ils ont beaucoup de choses, il leur manque rien et pourtant ils sont dans la dépression. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas un goût dans la vie, ils n'ont pas un but dans la vie. Et donc, c'est une raison, ça ne va pas. Et quelque part, le judaïsme considère qu'une vraie liberté, c'est que lorsqu'on prend en charge derrière. C'est pour ça que la sortie de l'Égypte était bien une sortie d'un esclavage très grave, très difficile. Et pourtant, on ne considère pas ces gens libres tant qu'ils ne vont pas recevoir la Torah, que la Torah, on considère que c'est la vraie liberté. Et pourtant, la Torah, c'est une sorte d'esclavage, parce que finalement, la Torah nous dit ça, vous devriez faire, ça, vous ne devriez pas faire, ça, vous avez le droit de faire, aujourd'hui, vous devriez faire telle et telle chose. Normalement, dans l'esprit des gens, un homme libre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, on ne lui impose pas des choses. Mais ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est qu'une vraie liberté, c'est, en tout cas, on ne peut pas, on va parler de ce côté aujourd'hui, on ne peut pas être vraiment libre si on n'a pas un cadre à côté. Parce que quelqu'un, effectivement, qui va être libre à tout faire ce qu'il a envie de faire, ça va lui amener vers la catastrophe, ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui permettent à tout faire, ils sont dans les difficultés les plus grandes, parce que finalement, on va jamais satisfaire nos volontés, nos désirs. Donc, alors finalement, plus qu'on a, on a la possibilité de faire des choses, plus qu'on va être soif, plus qu'on va être mal. Donc, ça, c'est une des explications pourquoi on peut pas être libre si on n'a pas un cadre à côté. Alors, le peuple juif, ils ont sorti de l'Égypte. Et tout de suite après, ils ont reçu la Torah. Donc, on peut considérer qu'ils ont sorti d'un esclavage vers un autre esclavage. Mais ça, c'est un esclavage non volontaire. Et ça, c'est un esclavage volontaire. Ça suffit de regarder la communauté, en tout cas, et voir que quand on fait des mitzvot, quand on fait la Torah, ça crée des plaisirs énormes. Et pourtant, c'est des devoirs. Alors apparemment, des devoirs vont avec le plaisir. Ça suffit aussi de dire des devoirs parfois. Un enfant qui ne veut pas travailler, il n'a pas envie. Et pourtant, si on arrive à le convaincre de travailler, après, il sort heureux. Pourquoi? Parce que ça remplit le fait qu'on a des devoirs à faire. On a un but dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui remplit la personne. Il est heureux. Donc, alors, c'est ça, parmi l'idée, ça, parmi les liens entre la liberté et le don de la Torah, parce que pour être vraiment libre, il faut avoir un travail, il faut avoir un devoir, un but dans la vie. Maintenant, on peut aller plus loin et dire qu'il est marqué que la Torah était donnée le jour de samedi, Shabbat. Est-ce qu'il y a un rapport entre Shabbat et le don de la Torah? Comme on a dit tout à l'heure, que les Juifs ils ont sorti de l'Égypte, c'était un jeudi. Et 7 semaines après, plus un jour, donc le jour de samedi, ils ont reçu la Torah. Alors, le fait qu'ils ont reçu la Torah le samedi, est-ce qu'il y a une signification? Alors là aussi, c'est très significatif et c'est très important parce que quelle est l'idée de Shabbat? On sait que l'idée de Shabbat, c'est l'idée de repos. Qu'est-ce que c'est un repos? Un repos, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait la sieste. Il y a plusieurs niveaux de repos. Il y a un repos aussi intellectuel. Il y a quelqu'un qui, devant des difficultés, il se perd. Il y a beaucoup de choses, il se perd, il ne fait pas faire ce qu'il doit faire avant et ce qu'il doit faire après. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de travail et ils se perdent. Mais s'ils arrivent à suivre un fil, ils arrivent à organiser leur temps, à savoir que ça c'est avant et ça c'est après, alors ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire et pourtant, ils sont calmes parce qu'ils ont un but dans leur vie. Ils ont quelque chose qui c'est pas en éparpillé chez eux. C'est des choses, il y a beaucoup de choses, mais chaque chose a son ordre. Ça s'appelle aussi une notion de ça s'appelle aussi un repos. Il y a des gens, par contre, qui ont beaucoup de temps, et pourtant, ils n'arrivent pas à s'organiser, ils sont toujours en retard. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, on ne va pas parler maintenant de ça, mais j'ai entendu quelqu'un qui dit, c'est un petit peu vexant pour certaines personnes, mais malheureusement, c'est vrai aussi, chacun peut le voir chez soi, cette idée, on dit comme ça, il y avait quelqu'un, un proche à nous, qui disait, que si tu as besoin de demander un service à quelqu'un, demande à quelqu'un qui est occupé. Demande pas à quelqu'un qui n'est pas occupé, parce que quelqu'un qui n'est pas occupé, il va toujours dire qu'il est occupé. Par contre, quelqu'un qui est occupé, alors ça va être une occupation de plus. C'est encore c'est un petit peu vexant, mais parfois c'est vrai aussi. Et pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir mettre quelque part, je trouve pas les mots, mais quelque chose en ligne de conduite. Et quelque chose que je sais que ça c'est avant et ça c'est après. Il n'y avait pas plus qu'il y a quelques jours, je proposais à quelqu'un d'étudier avec lui une fois par semaine, un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Quelqu'un qui en ce moment il est libre, il ne travaille pas, il est en train de, en fait, de s'organiser pour travailler, ce jour il ne travaille pas. Alors il m'a dit, aujourd'hui je suis très occupé parce que je suis en train de m'organiser pour le travail, donc je ne suis pas libre. Une fois que je vais travailler, et donc à ce moment-là, mes horaires vont être clairs, je sais que je commence à telle heure, je termine à telle heure, à ce moment-là, je peux rajouter encore un quart d'heure. Mais aujourd'hui que je ne travaille pas encore, je ne peux pas trouver un moment. C'est un peu cette idée qu'on est... Tout est dans la tête. On est mal organisé. Et donc, à ce moment-là, parfois, on est beaucoup plus organisé quand on est occupé. Parce qu'on est dans un rythme que quelqu'un qui n'est pas organisé, donc il a tout le temps, à ce moment-là, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il a trop de temps, donc il n'a pas le temps. Donc ça, c'est juste un exemple. Et le judaïsme nous demande beaucoup de choses et pourtant, il nous donne les moyens de faire un ordre dans notre vie, de voir clair, de voir le but. Alors à ce moment-là, même si qu'il y a beaucoup de détails, on arrive à s'organiser. Même si qu'il y a beaucoup de rôles, on arrive à faire les choses, à les tâches, on n'est pas fatigué parce que les choses sont claires. Quand par contre, on n'est pas organisé, on est mal organisé, ou bien il y a beaucoup de choses en même temps, on ne sait pas quoi faire avant et quoi faire après, alors à ce moment-là, on est perdu. Et on peut dire, donc, Shabbat, quelle est l'idée de Shabbat? L'idée de Shabbat, c'est après 6 jours de travail, il manquait par rapport à Dieu, que Dieu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il s'est reposé? Dieu il a besoin de se reposer. De toute façon, lui, il a tout créé, alors toute notion de repos ne doit pas exister. Donc, parmi les explications, c'est qu'il a pas, il ne s'est pas reposé. Il a créé les notions de repos. Le jour de Shabbat, il a créé la notion et le besoin de repos. Mais d'autres explications, ils sont tous vrais. D'autres explications, c'est que il a la semaine, donc les 6 jours de la semaine, il y avait de différents actes, de différents mouvements, que si on ne fait pas un point qui les lie ensemble, on a l'impression que, qu'on est perdu dans les différences. Parfois on est dans un mouvement, parfois on est dans un autre mouvement. On n'arrive pas à faire les liens entre les deux, entre les différentes choses. Comme l'exemple, vous prenez la musique. S'il n'y a pas quelqu'un qui organise la musique, l'harmonie dans la musique, alors ça va être une catastrophe. ça va être comme des casseroles qu'on tape dessus sans rythme. Par contre, s'il y a une bonne organisation, alors à ce moment-là, même s'il y a beaucoup, énormément de choses, mais si on arrive à faire le rythme, on arrive à faire les liens entre les différentes choses, alors à ce moment-là, ça ne me dérange pas qu'il y a beaucoup, il y a une bonne organisation, alors à ce moment-là, tout va bien. Par contre, s'il y a des gens qui jouent mal, alors ça fait mal à la tête, on n'arrive pas à suivre. Alors c'est quoi les différences? Les différences, c'est l'organisation. Les différences, c'est le bon ordre dans les différentes choses. Si on arrive à mettre d'ordre dans les différences, alors là, on est dans un monde apaisé. Et si on a peu de choses, mais on n'arrive pas à mettre d'ordre, alors à ce moment-là, on est dans les balagans, comme on dit, dans les problèmes. Et il y a une expression en français qu'on dit qu'il y a des gens qui se perdent dans un verre d'eau. Et il y a des gens qui arrivent à nager même dans des endroits énormes. Ça dépend. Alors quelque part, le système du judaïsme, c'est que d'une part, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça commence par les 6 jours de la création. Les 6 jours de la création, ce n'est pas seulement 6 jours, c'est aussi 6 notions. C'est plutôt 6 notions. 6 notions qui sont carrément différentes. Et Shabbat, c'est celui qui fait un ordre dans les différentes notions. C'est pour ça aussi que c'est ça l'idée aussi au niveau spirituel. Shabbat, c'est pas seulement le jour où on fait beaucoup de siestes, où on mange beaucoup. C'est un jour de pensée. Après 6 jours où on était plutôt actif, Shabbat, ça nous fait un ordre dans notre tête par rapport à la semaine. Donc alors l'idée de repos ici, c'est plutôt un repos intellectuel, un repos spirituel. Là aussi, la Torah a été donnée le jour de Shabbat, parce que la Torah aussi, elle est pareille. Dans la Torah, il y a beaucoup de détails, beaucoup de différences, beaucoup de visions. La Torah nous pousse à penser autrement. La Torah nous pousse au bout que chacun, il développe ses qualités, ses différences. Celui qui étudie le Talmud, il voit comment on est différent, comment on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Alors si c'est comme ça, c'est une catastrophe, puisqu'on a tellement de différences, comment on peut cohabiter? Alors c'est ça l'idée de la Torah, qui donne les différences, comme on a déjà parlé quelques fois. Dans les différences, on arrive à trouver quelque chose qui lie. Pas seulement quelque chose qui lie, on trouve que les différences, quelque part, là, ils complètent l'autre. Alors à ce moment-là, la différence devient d'harmonie. Et c'est ça la vision de la Torah. Alors, c'est ça l'idée, encore une fois, le lien entre Shabbat et la Torah. C'est pour ça que la Torah a été donnée Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est celui, l'harmonie dans la semaine. C'est lui qui donne, c'est le moment où on réfléchit, où on comprend, où on fait un ordre dans les différences de la semaine. Et en même temps, c'est aussi un jour physiquement, un jour de repos. Mais l'homme aussi, il a besoin de ça. De temps en temps, se reposer de quelque part, de soulever, d'être ailleurs. À ce moment-là, la semaine, elle est mieux. C'est pareil aussi pour la Torah. La Torah, il y a beaucoup de différences, beaucoup de visions, beaucoup de devoirs. Et pourtant, si on est bien organisé, si la Torah elle nous fait un bon ordre dans la tête, alors à ce moment-là, au contraire, on peut avoir beaucoup de détails, beaucoup de devoirs, beaucoup de choses, et pourtant, on est bien reposé, on est bien intellectuellement et dans d'autres domaines. Quand même, il faut, puisque ce qu'on fait, parmi les choses importantes donc, dans la fête de Shavuot, qui, comme on a dit, ça commence cette année, les premiers juin en soir, et ça continue le 2 juin, ensuite le 3 juin, et en dehors d'Israël. Mais le 2 juin, c'est le jour où on va dans les synagogues lire les 10 commandements. On va lire l'histoire de la fête et de Shavuot, l'histoire de don de la Torah, et ensuite on va lire les 10 commandements. Alors dans les 10 commandements aussi, il y a quelque chose d'étrange. Mais tout d'abord, pourquoi on lit les 10 commandements? Comme on a dit tout à l'heure, qu'on lit ces que s'est passé ce jour, que Dieu il a donné la Torah. Et donc, il a commencé la Torah pour les 10 commandements, et à la suite, pendant 40 jours, ou même plus que ça, Dieu il a donné les détails de la Torah. Mais il a marqué quelque chose de très étrange. Il a marqué que lorsque Dieu il a prononcé les 10 commandements, tout d'abord, il a dit tout en même temps, et ensuite, il a dit parole par parole. Eh bien, Dieu il est capable de tout faire, nous, on n'est pas capable. Mais qu'est-ce que c'est cette idée? À quoi ça sert de tout dire et ensuite détailler? Alors, il y a plusieurs significations dans le Hassidut. Qu'est-ce que c'est? Il y a cette explication que quelqu'un qui veut donner un bon cours, tout d'abord, il dit les choses d'une façon générale et ensuite, il détaille. Mais il y a une autre vision qu'effectivement, dans chaque chose, il y a quand les détails et il y a les points qui unissent toutes les choses. Puisque on est dans un système que d'une part il y a beaucoup de détails, mais d'une autre part il y a les points qui unissent tout. C'est pour ça que aussi dans les dons de la Torah, il y avait ces points et ensuite le développement. Et là aussi, on a dans notre vie beaucoup d'exemples pour ça. Il y a quand quelqu'un qui va parler. Avant de parler, il va réfléchir. Donc, quand on réfléchit, ce qui était en détail, ce qui va être en détail, avec beaucoup de détails, dans la parole, va être plus général dans la pensée. Et avant même de penser, la pensée, c'est un développement d'arrière-pensée, si on peut l'appeler comme ça, qui se trouve chez l'homme d'une façon très générale, comme si quelqu'un qui voit une photo. Il voit tout en même temps. Mais après, dans sa tête, il voit tout en même temps. Mais après, il commence à réfléchir les détails. Il va raconter en détail ce qu'il a vu. Mais il a vu tout en même temps. Un point, il a vu un instant, mais cet instant, elle est remplie de détails. Mais lui, il n'a pas forcément vu les détails tout de suite. Il a vu le général, que dans le général, il y a les détails. Ça, c'est une vision de notre monde. Notre monde, il a beaucoup de détails. Donc, s'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'un détail, il ne va pas avec l'autre détail. Mais si on arrive à trouver le point qui unit, alors à ce moment-là, tout change. Parce que d'un coup, ce n'est pas des détails. Une voiture, ce n'est pas des détails, c'est un ensemble. Et c'est comme ça, c'est notre regard sur le monde. Ça aussi, il est marqué qu'avant les dons de la Torah, le monde a été plutôt des détails. Avec les dons de la Torah, que la Torah nous a changé la vision sur le monde, que tout le monde, chaque détail du monde fait partie d'un ensemble, etc., à ce moment-là, c'est ça qui a installé la stabilité dans le monde, et c'est pour ça que c'était donné le jour de Shabbat. Maintenant, encore quelques petits détails, parce que quand même, il faut dire ce qu'il faut pratiquer, comment on pratique. Et le fait de Shavuot, qu'est-ce qu'on a comme devoir à faire? Alors, comme on a dit tout à l'heure, on a l'habitude, et c'est une habitude très importante, de venir à la synagogue pour écouter les 10 commandements qu'on lit dans le livre de la Torah, le Sefer Torah. C'est très important que tout le monde soit là, les adultes, mais aussi les enfants, parce que les enfants, ils sont dans la Torah, ils sont les garants de la Torah, comme la première fois, que Dieu ne voulait pas donner la Torah tant qu'on ne lui donne pas un garant, des garants, que la Torah soit respectée. Et qui étaient les garants que Dieu il a acceptés? Ni les patriarches, ni les autres personnes, mais les enfants. Et les enfants sont les garants. Si on met les enfants, depuis leur petit âge, dans ce système de la Torah, on est sûr que la Torah elle va être gardée. Donc aussi on attend qu'on va comprendre, qu'on va arriver à certains niveaux, et à ce moment-là on va faire la Torah, c'est pas sûr que la Torah elle va être respectée, parce que les différentes choses de la vie font qu'il y a des difficultés. Mais si on commence avec le petit âge, à ce moment-là on est sûr, on le voit clairement que c'est comme ça. Alors donc on a l'habitude chaque année d'amener nos petits-enfants, c'est le Rabbi de Lubavitch qui l'annonçait, mais c'est des choses qui s'est développées comme toutes les choses que le Rabbi l'a annoncé. Développé partout, il y a beaucoup d'enfants, ceux qui ne viennent pas toujours à la synagogue, mais les jours de Shavuot, on amène les enfants, c'est surtout le premier jour, à la synagogue pour écouter les 10 commandements. Pour avoir les détails où ça se trouve, vous pouvez nous téléphoner, bien sûr. Maintenant, ça c'est une habitude. Mais la loi, est-ce qu'il y a des lois comme Pessah et Sukkot, que Pessah on mange de la matzah, est-ce qu'il y a des lois à faire? Alors, il n'y a pas de loi de Shavuot, la seule chose, c'est de manger. On a une obligation de bien manger le fait de Shavuot. Parmi les raisons, c'est parce que la Torah, alors il faut poser une autre question avant, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau au moment de donner la Torah? Il y avait pas mal de gens qui connaissaient déjà la Torah. Avant même, on sait que déjà Noé, il connaissait la Torah, ou en tout cas une partie de la Torah. On nous parle de ce qui est cachère et ce qui est non cachère. À l'époque de Noach, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, ça c'est clair qu'ils connaissaient la Torah. Il est marqué clairement. Et en tout cas, ils ont appris la Torah. Et ce n'était pas nouveau, ils ont appris dans les générations d'avant. Et ils ont appris surtout chez les deux grands maîtres qui étaient Shem, le fils de Noach, et Ever, qui était un petit-fils à lui, mais en tout cas qu'ils ont transmis la Torah dans les générations après. Et comme ça, la Torah a été transmise d'une génération à l'autre. C'est vrai que les Juifs en Égypte, ils ont abandonné l'étude à cause de leur travail dur, mais il y avait quand même les tribus de Lévi, qu'ils n'étaient pas dans l'esclavage. Eux, ils ont eu la Torah, ils ont continué à étudier la Torah. Donc, en tout cas, chez certains, la Torah était claire. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y a de spécial au moment de donner la Torah? Alors, parmi l'explication, l'exemple qu'on donne, c'est qu'il y a des choses qui existent, mais ça ne fonctionne pas encore. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est très lié avec tout ce qui est électronique. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on est très lié. On fait des choses, on fait tout par électronique. On sait aujourd'hui que j'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas forcément pourquoi, mais j'ai appuyé sur un bouton et je change le monde. Je fais beaucoup de choses grâce au fait que j'ai appuyé sur le bouton. Mais il y a parfois où j'appuie sur le bouton et ça ne marche pas parce qu'il manque quelque chose. Prenez un téléphone, j'ai un téléphone le plus moderne, le plus nouveau qui existe. On imagine, je ne sais pas, mais en fait, on imagine. Mais la communication ne passe pas parce que je n'ai pas fait le nécessaire pour mettre, par exemple, la carte qu'il faut à l'intérieur. Donc, j'ai tout, mais il me manque une petite chose pour faire la connexion. Là aussi, avant les dons de la Torah, il y avait, comme on a dit tout à l'heure, la Torah, c'est quelque part aussi les mitzvot, donc les lois de la Torah, sont quelque part des boutons que la Torah nous dit. Appuyez sur un bouton et vous allez, ça va fonctionner. Chaque mitzvah, elle fait fonctionner une autre idée. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faut développer, mais si le faire un petit peu plus simple, grâce au tefillin, on fait telle chose, grâce à la mezuzah, on fait telle chose. Au lieu de faire les choses, même si on ne comprend pas la valeur, ce que se passe grâce à cette mitzvah, mais on sait que ça existe exactement comme quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne le téléphone, et pourtant il l'utilise. Et là aussi, dans les mitzvot, ça c'est beaucoup plus ancien, la Torah nous dit, faites ceci, faites cela, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne, faites-le. Et les choses vont fonctionner au niveau spirituel, au niveau matériel. Donc avant les dons de la Torah, la Torah était plutôt des idées spirituelles. Après les dons de la Torah, c'est ces actes matériels, que grâce à ces actes matériels, on arrive à changer pas mal de choses, à accéder au monde spirituel, ou bien dans d'autres domaines, grâce comme quelqu'un qui appuie sur un bouton, c'est grâce aux actes matériels. Et c'est pour ça que puisque la Torah, les nouveautés de la Torah au moment de donner de la Torah le jour de Shavuot, c'était plutôt pas seulement l'idée spirituelle qu'on avait déjà avant, même si c'était pas aussi grand que ça, mais c'est surtout que les choses fonctionnent, que l'acte matériel fonctionne. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire un acte matériel plutôt et faire un bon repas. Et c'est une mitzvah, donc le jour de Shavuot, de faire un bon repas. En tout cas, le jour de Shavuot, donc c'est le moment où on reprend sur nous la Torah à nouveau. Et on sait que aussi la Torah, c'est un devoir, mais comme on a dit tout à l'heure au début de cette émission, c'est quelque chose qui nous remplit de joie, nous remplit de buts. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, quelqu'un qui fait la Torah, il est rempli, il se sent libre, il se sent bien dans sa peau. Et le jour de Shavuot, c'est le moment où on a aussi l'habitude de reprendre quelque part, de se renouveler. Comme chaque année, il y a quelque chose de nouveau, même si on ne voit pas, qui se passe, on va le voir pendant l'année, les nouveautés, comme au niveau matériel, il y a des nouveautés, de nouvelles choses qui s'installent dans le monde, qu'on les voit petit à petit. Là aussi, dans la Torah, il y a des nouvelles installations, une nouvelle chose qu'on n'a pas compris jusque-là, on va comprendre. Et chaque année, il y a quelque chose de nouveau au moment de donner la Torah. En tout cas, au niveau des devoirs, c'est vrai que c'est bien, comme on a dit tout à l'heure, de concentrer ces jours de Shavuot comme un jour de fête. Il faut prendre son temps pour faire ce qu'il faut faire. Vous pouvez trouver des guides de Shavuot sur Internet, ce qu'il faut faire. C'est important, et surtout, d'écouter les 10 commandements à la synagogue ou les différents endroits et faire un bon repas de Shavuot. Il y a d'autres coutumes, mais c'est vrai aussi que c'est le moment d'un petit peu de reprendre des nouvelles décisions. Voilà, cette année, puisqu'on est, on passe le jour de don de la Torah, alors cette année, je vais faire encore un effort envers la Torah. Et surtout, comme on a dit tout à l'heure, que la Torah, c'est une notion d'équilibre qui nous donne un équilibre dans notre vie. Elle nous rend plus mieux dans notre vie, elle nous rend plus joyeux, elle nous rend plus, comme on a dit tout à l'heure, l'idée de repos, de gens reposés, même si on a beaucoup de devoirs à faire. Pourtant, on est reposé. Et aussi, comme on a dit, il me semble, la semaine dernière, que la Torah, elle est là pour amener la paix dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étrange. On a dit tout à l'heure que la Torah elle est remplie de détails et de différences. Donc, normalement, c'est censé à faire les différences et des conflits. Parce que plus qu'il y a des détails, plus qu'on est différent, plus qu'on est, on a des conflits. Et pourtant, là, on a dit le contraire. Parce que c'est vrai. C'est pas les détails. Si les détails, ils n'ont pas leur fil conductrice, alors à ce moment-là, c'est des détails qui divisent. Mais si on a des détails avec le fil qui conduit, alors à ce moment-là, c'est des détails qui correspondent, c'est des détails qui complètent. C'est l'harmonie. Et c'est pour ça que la Torah, et c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière, que la Torah était donnée en troisième mois, et c'est très symbolique. Parce que le chiffre 3, c'est un chiffre qui unit après les deux qui font les différences. On le trouve dans plusieurs endroits, mais en tout cas, on va arrêter là. Et en fait, on a dit pas mal de choses sur la fête de Shavuot, même si la fête de Shavuot, c'est une fête très agréable, très magnifique d'une part, mais une fête aussi très profonde. On vous invite à participer à cette fête, et que la Torah, plus qu'on a la Torah, plus qu'on a la paix, plus qu'on a cette vision du monde différent, cette vision apaisante du monde, et c'est ça aussi l'esprit de Mashiach qui va donner, amener cet apaisement dans notre monde. Merci beaucoup pour votre écoute, et Chag Sameach, bonne fête, et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.